Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Jean-Louis Tour.
La dernière partie des drôles de dames avant l'after à 22h avec Daniel Emmanoussi, Apollo Breitner, Julien Laurence et Edgar Groslot. Ça a pas bougé sur les pelouses où on suit les matchs en direct. 0-0 entre Everton et Manchester City, entre Séville et la Real Sociedad. Et c'est la mi-temps, 3-0 pour la Roma face à la Fiorentina. Il nous reste à parler donc de l'effet de Zerbi à Tottenham, de la course à l'Europe en Allemagne. Et avant cela, vous savez qu'il y a désormais la collection drôles de dames sur afterfoot.shop. Donc vous pouvez retrouver les sweats, les t-shirts, les mugs, les chaussettes avec les phrases cultes des drôles de dames. Vous les connaissez par cœur le lundi. Il y a 100 euros de bons d'achat sur la boutique afterfoot.shop à gagner tout de suite. Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16.
Jouez et gagnez sur RMC avec la collection drôles de dames de la boutique Afterfoot. Sweats et t-shirts exclusifs à retrouver sur afterfoot.shop.
Au moment où Manchester City vient d'ouvrir le score à Everton avec le but de Jérémy Doku, donc pour les joueurs de Pep Guardiola, peut-être une victoire qui se dessine donc très importante pour remonter sur Arsenal. Ça fait partie des deux matchs en retard à gagner pour Manchester City. Mais on va à l'autre bout du classement, Julien, en bas de tableau où Tottenham a donc gagné et l'effet de Zerbi se poursuit.
Ouais, c'est bien. Alors, c'est troisième match, c'est la deuxième victoire de suite. Donc, après celle contre Wolverhampton. Autant Wolverhampton dans le contenu, c'était pas dans la performance, c'était pas génial. Ils avaient fait ce qu'il fallait, ils avaient marqué sur coup de pied arrêté. Autant là, c'était beaucoup mieux. Alors, on a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure d'Aston Villa et Unai Emery avait fait beaucoup de changements. Des joueurs qui avaient clairement pas envie d'être sur le terrain, pas envie de jouer, des Barclay, des Sancho qui avaient rien à faire là. Mais ça n'enlève rien au mérite de Tottenham quand même, parce que j'ai été dur quand il le fallait avec eux et avec des Zerbi à son arrivée notamment. Et là, il mérite effectivement qu'on le félicite parce que c'était une très bonne performance déjà dans sa composition d'équipe, ce qui était très bien malgré les absents, malgré les blessures. Encore une fois, pas de Xavi Simons, pas de Solanke, ce qu'ils ajoutent à la longue liste d'absents aussi qu'ils ont depuis le début de la saison. Mais surtout dans l'intensité, dans les intentions de jeu avec ballon, dans l'agressivité aussi, ce qu'on n'a pas eu du tout l'habitude de voir avec cette équipe-là depuis, en tout cas pas régulièrement cette saison. Mais là, ils l'ont eu, ils ont tenu, ils ont marqué tôt par Gallagher, ce qui aide forcément après 12 minutes de jeu quand ils ont tellement bien commencé la rencontre qu'ils mènent au score, et ça leur arrive pas souvent non plus. Et puis après, ils ont vraiment contrôlé. Aston Villa n'a pas eu une frappe avant la 60e minute, je crois. Ils ont eu une touche de balle dans la surface de Tottenham jusqu'à la 70e minute. Enfin, c'était vraiment à sens unique, à Villa Park en plus, pour Tottenham. Donc vraiment bravo. Surtout que West Ham avait perdu samedi. Donc c'était l'opportunité parfaite finalement pour De Zerbi et Tottenham de sortir enfin de cette zone de relégation. Et maintenant, selon moi en tout cas, maintenant qu'ils en sont sortis, je les vois vraiment pas, même s'il y a qu'un point d'avance sur ils ont qu'un point d'avance sur West Ham, mais une meilleure différence de but, mais je les vois pas retomber maintenant dans cette zone de relégation là, dans les trois derniers.
Et De Zerbi, globalement, il laisse quelle impression là pour l'instant?
Sincèrement, pour moi, ça avait été plutôt mitigé sur les premières performances, parce que comme je l'avais expliqué à Sunderland par exemple, son premier match, alors que ça faisait déjà 10 jours qu'il était là, j'avais rien compris à ce qu'il avait voulu faire, donc ouais. Ni dans sa composition d'équipe, ni dans la tactique, ni dans le plan de jeu. Autant contre Brighton, c'était un petit peu mieux, mais t'avais quand même Xavi Simons qui t'avait sorti deux moments de classe mondiale, son but et sa passe d'aise, et l'erreur de Verbruggen qui avait fait que, même si t'avais mené longtemps au score, t'avais pris un but en fin de match, c'était déjà un petit peu mieux. Wolverhampton, il fallait gagner, ils ont gagné.
Mais au-delà des matchs, je parlais un peu de l'impression aussi en conf de presse, vu que j'ai vu qu'il faisait le un peu le cinéma entre guillemets qu'il a fait à Marseille sur moi je suis quelqu'un du peuple, etc. En gros, il a ressorti toutes les ficelles de l'OM quelques semaines après à Londres.
Complètement.
Ça, on aime bien pour l'instant.
Alors, c'est pas forcément qu'on aime bien, parce que tant que là, ça gagne deux matchs d'affilée, oui. Par exemple, il a dit quelque chose vendredi dans sa conférence de presse d'avant-match que j'ai eu un peu de mal à comprendre, en disant ouais, ici de toute façon, tout le monde pleure déjà et tout le monde pense qu'on est déjà relégué en gros.
Ouais.
Alors qu'il venait de gagner le week-end d'avant, qu'il y avait un peu de... C'était plus positif, qu'il y avait une petite dynamique quand même assez intéressante, même si c'était que Wolverhampton, mais bon quand même, ils n'avaient pas gagné de match en 2026, donc à un moment même gagner un seul, même chez les derniers, c'était quand même bien. Ils avaient trouvé que au lieu de dire à tout le monde ouais c'est positif, on va construire là-dessus, ça va nous entraîner, c'est entraînant, etc., ils nous avaient sorti ouais tout le monde pleure déjà, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'on est déjà relégué, etc., et c'est pas ce qu'il faut. Mais bon, là, ils ont gagné encore, et surtout, c'est leur meilleure performance depuis qu'il est arrivé, donc à son quatrième match. Ils ont Leeds lundi prochain, donc dans une semaine, Leeds à domicile. Leeds qui est déjà maintenant maintenu, et bon, je pense qu'il devrait gagner aussi. Donc, ça va mieux, en tout cas, sur le terrain, dans les résultats, et lui, on verra un peu dans quel état d'esprit et dans quelle humeur il est cette semaine.
Bon bah très bien, ça fera partie des attractions de la fin de saison en Angleterre. Merci Julien. La course à l'Europe en Allemagne, Polo. Et donc, est-ce que Leipzig doit s'inquiéter après cette grosse défaite contre Leverkusen? Il y a 4 points d'avance encore, hein, mais bon, à 2 journées de la fin, faut faire attention quand même.
Non, c'était assez génial parce que le calendrier, justement, on en parlait un peu avant, nous a offert Leverkusen contre Leipzig et Hoffenheim contre Stuttgart. Donc évidemment, il y aura des perdants pour la qualification Ligue des Champions. On va mettre Leipzig de côté parce qu'il restait sur 5 victoires à la suite et honnêtement, avec 4 points d'avance, vu qu'il joue St. Pauli le week-end prochain, ça devrait être réglé. Ce qui est impressionnant par contre, c'est la performance de Leverkusen qui était depuis plusieurs semaines sur un tempo assez moyen où Kasper Hjulmand était critiqué, etc. Et on a retrouvé le Leverkusen qu'on voulait voir. À tel point qu'on a recommencé à critiquer Leipzig dans le sens où Leipzig ira sûrement en Ligue des Champions l'année prochaine, sauf catastrophe. Mais pour faire quoi? Il va falloir se poser la question d'avoir un vrai banc, de savoir comment on veut jouer exactement, quel est le véritable niveau d'Ole Werner, etc., comme le coach. Parce qu'on peut pas se reposer tout le temps sur Diomande. Hein, il faut réfléchir à tout ça. Moi, ce qui m'a plu, évidemment, c'est le triplé de Patrick Schick. C'est le fait qu'on ait retrouvé un Leverkusen de très, très haut niveau. Donc, c'est quand même une saison très, très spéciale pour Leverkusen, qui était évidemment une année de transition, mais qui est capable de se planter lamentablement en Bundesliga, mais en même temps de l'aller emporter en Ligue des Champions à Manchester City, par exemple. Quoi. Donc c'est un peu normal. C'est une
et d'en prendre 7 contre le PSG.
Et d'en prendre 7 en début de saison contre le PSG, ou de révéler Maza, qui a encore été assez exceptionnel ce week-end. Donc c'est un peu les deux tendances à Leverkusen. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 3 équipes à 58 points.
Et, oui.
Et là... c'est délicat, parce qu'il y avait l'autre match, Hoffenheim, le derby Hoffenheim contre Stuttgart. Hoffenheim, bon, moi, c'est l'équipe révélation de la saison, c'est assez exceptionnel, je voudrais les voir en Ligue des Champions. Ils ont atomisé Stuttgart, ils mènent 3-1, etc. Et on se dit, bon, ça va réussir, et finalement 3-2, mais Stuttgart se fait Karazor, on en parlait avec Najib le week-end dernier, se fait expulser à la 70e minute, et Stuttgart réussi à aller chercher l'égalisation durant les arrêts de jeu, un peu comme le Bayern contre Heidenheim, 3-3 par Thiago Tomás. Et si tu veux, ça laisse Stuttgart en vie, sauf qu'il y a le problème du calendrier. Stuttgart va jouer Leverkusen, va recevoir Leverkusen le week-end prochain, tandis qu'Hoffenheim, joue encore à domicile contre Brême, qui n'est pas sauvé, mais qui est en fin de classement, et jouera Mönchengladbach à la dernière journée, qui est déjà sauvé. Donc on en revient au débat qu'on a fait tout à l'heure sur
le...
Voilà. Ouais. Sauf que, moi, je voulais Hoffenheim en Ligue des Champions parce que c'est l'équipe surprise. Je rappelle l'anecdote qu'on avait fait. On avait interrogé Massengo dans le podcast Affaire Allemagne sur Augsbourg et on lui avait posé la question quelle est l'équipe qui l'a le plus impressionné cette saison. Tout le monde s'attendait évidemment qu'ils disent le Bayern et il disait Hoffenheim. Et Hoffenheim a fait mal à tout le monde cette saison avec Christian Ilzer, qui est un coach que j'adore, mais très spécifique de la galaxie, qui est vraiment dans la philosophie de la galaxie Red Bull avec des coachs, des équipes très énergivores, etc. Donc, le problème, évidemment, c'est de jouer l'année prochaine en Ligue des Champions tous les 3 jours, ça va être délicat. Mais le grand mec qu'il y a, c'est que cette équipe, surperformant évidemment, t'as les joueurs, ils ont été repérés par les grands clubs européens. Et qui dit grand club européen veut dire évidemment la Première Ligue aujourd'hui, surtout quand il y a des grands clubs comme Liverpool qui ont peut-être des problèmes d'effectifs, ou quand il y a le Barça qui cherche un successeur à Lewandowski. Et là, on a le jeune Touré, évidemment, qui a 20 ans, qui n'est là que depuis 18 mois et qui a un joueur, c'est un bolide, il va à 200 à l'heure sur le terrain, c'est l'une des révélations de la saison. Hoffenheim a déjà fixé la somme pour l'acheter, c'est 40 millions, donc ça veut dire que 40 millions plus. Donc ça veut dire que l'année prochaine, s'il part, tu n'as plus du tout le même Hoffenheim qu'on aurait voulu voir. Aslani, évidemment, on en parle
mais
beaucoup
ça, tous
du
les
côté
clubs
du Barça.
Sont habitués quand même, Polo, maintenant. Ils sont préparés à ça, ils anticipent, non?
Ouais, mais ça va super vite. Moi, ce que je constate, c'est un peu comme les joueurs sur le terrain. les transferts de joueurs se font de plus en plus rapidement. Et moi, depuis quelques années en Bundesliga, alors très bien, c'est très bien pour les recruteurs allemands des clubs de Bundesliga qui arrivent à choper des gamins de 18, 19 ans qui explosent. Hein. Je pense à Diomande, évidemment. On ne sait même pas s'il sera là encore l'année prochaine. Mais il est juste là depuis un an. C'est-à-dire qu'ils ont à peine le temps d'arriver que déjà, on récupère la plus-value. Alors évidemment, ça assure la pérennité du club, tout ce que tu veux, etc. L'Allemagne n'est pas la France, on va dire ça d'une façon très simple. Mais dans le projet sportif, tu restes frustré. Moi, si j'ai Hoffenheim l'année prochaine en Ligue des Champions, déjà que j'ai des questions sur cette capacité avec l'effectif qu'il a, Christian Ilzer, de pouvoir jouer tous les trois jours, d'enchaîner Ligue des Champions, championnat, si en plus on commence à m'enlever Touré et Aslani, où j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire, bah c'est pas du tout la même, le même plaisir que je vais prendre, parce que on va dire l'année prochaine les gens l'analyseront en plus, ah oui mais c'est génial, ils jouent en Bundesliga, ils jouent la Ligue des Champions, blablabla, bla, et ça se trouve ils vont nous faire une Villarreal avec un point quoi, et c'est parce qu'ils n'auront pas réussi à retrouver les mêmes styles de joueurs, etc. Il faut reformer systématiquement, ça devient un peu pénible au bout d'un moment. Maintenant encore une fois, le système est comme ça, tant qu'on changera pas le système, voilà, c'est compliqué.
Bon,
donc oui, je pense que Stuttgart va tout perdre, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en Ligue des Champions. Et il y a une grande question, puisque je crois que j'ai rarement vu ça dans l'histoire du coefficient UEFA, où des équipes se battent comme ça pour aller chercher la cinquième place. Il n'y a pas grand-chose entre l'Espagne et l'Allemagne pour la cinquième place qualificative, enfin la deuxième place, le deuxième meilleur du coefficient UEFA qui offre la cinquième place en Ligue des Champions. Et ça va se jouer, je pense, cette semaine, entre le Rayo, entre le Bayern et entre Fribourg. Et ça, ça peut donner la deuxième place à l'Allemagne, qui offrirait la cinquième place en Bundesliga, donc peut-être Hoffenheim, donc peut-être Leverkusen. Mais en tout cas, je pense que celui qui est le plus mal barré, malgré le point pris ce week-end, c'est Stuttgart.
Très bien, bah, c'est complet sur la lutte pour la Ligue des Champions et les places donc juste derrière en Allemagne. La minute anglaise.
J'ai mis un petit banger pour toi, mon Jean-Louis, comme tu étais là ce soir, et je sais pas quand est-ce que tu reviendras. Je t'ai mis un petit. Alors, t'es trop jeune encore, hein.
Bien
sûr, je pense que
bien.
Polo.
Connaît ouais,
bien
moi, je connais
Nick Kershaw.
Parce que Nick
bien
Kershaw,
sûr,
oui. Alors,
et en plus, pour
est-ce qu'il l'a donné la solution de l'énigme?
Bah, non, je crois pas, hein. En tout cas, moi, je la connais pas. Mais parce que cette chanson s'appelle The Riddle. Exactement, tout à fait, mon Polo. Parce que Nick Kershaw vient de Ipswich, effectivement, en East Anglia. Ipswich qui remonte donc en Première Ligue un an après avoir été relégué de la Première Ligue. Kieran McKenna et ses joueurs ont accroché lors de la dernière journée du Championship, qui était samedi, une journée assez magnifique finalement, parce qu'il y avait plein de choses à jouer pour la montée automatique, pour les places en play-off et tout ça. Et donc bravo à Ipswich, parce qu'avec Coventry, ils ont été la meilleure équipe, avec un effectif qui était quand même de qualité, il faut le dire, même s'ils avaient perdu quelques joueurs l'été dernier, comme Delap et Hutchinson. Ça restait une très très bonne saison et ça reste une très bonne équipe. Donc bravo à eux pour ce retour donc en Première Ligue. On connaît aussi maintenant les barragistes, donc ceux qui feront les play-offs pour la troisième place pour monter en Première Ligue. On aura une première demi-finale entre Middlesbrough et Southampton en match aller-retour. L'autre avec Hull City et Millwall, les deux grosses surprises bien sûr, qui ont fini 3e et 6e, pareil, match aller-retour. Et puis après la grande finale, on la connaît, hein, c'est le fameux match à 150 millions d'euros pour la montée entre donc les vainqueurs de ces deux demi-finales à Wembley à la fin du mois de mai. Mais donc voilà, bravo à Ipswich, à Kieran McKenna et donc à Nick Kershaw aussi bien sûr pour cette chanson et pour le fait qu'ils viennent de là-bas.
Magnifique. T'auras fait le meilleur choix musical de la soirée, Julien. Donc
à peu près,
ouais. Donc Manchester
Apollo
City,
c'était pas mal.
Apollo, c'était pas mal, oui. Bah là, toi, ça te rappelle tes soirées.
C'était pas mal,
Edgar. C'est bon.
Ce qu'on appelle un banger dans le milieu, quand même.
Ah mais vous dites ça, mais Polo, tu laisses dire ça?
Non, mais je sais pas ce que c'est qu'un banger, donc.
C'est une masterclass, tu vois.
Ouais,
ah, oui, c'est un.
Mais j'aime bien la langue française sinon quoi. Mais Nick Kershaw, non c'est bon là, c'est son meilleur sub je pense, de loin.
Ouais, en plus, ouais, je suis d'accord.
Donc Julien, est-ce que t'as pu jeter un œil à la première mi-temps de Manchester City à Everton?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, joli but des deux coups d'ailleurs, magnifique, ouais. À la 43e, mais ils avaient dominé, même s'il n'y avait peut-être pas eu forcément de. de très très grosses occasions non plus avant ça, mais ils ont eu 78 ou 75% de possession de balle par exemple. C'est le match dont on s'attendait. Ils allaient pas, c'était pas là qu'ils allaient perdre des points, sincèrement. Donc je suis pas du tout surpris par la domination, par l'avantage au score non plus. Ils vont gérer la seconde période. Après, on le sait, on l'a déjà dit, hein, ça se jouera aussi peut-être à la différence de but, peut-être même au nombre de buts marqués. Donc 1-0, c'est bien. Il faut qu'ils gagnent quoi qu'il arrive. S'ils peuvent gagner 2 ou 3-0 ou 4-0. Et ils vont pas s'en priver non plus.
L'autre match en retard, c'est Crystal Palace. Et donc, il y a encore Brentford et Aston Villa pour Manchester City.
C'est ça, effectivement.
Ouais, on voit pas trop où ils peuvent lâcher des points, oui.
Non, ouais, t'as raison. Et donc, Arsenal a West Ham, Burnley et Crystal Palace pour finir. Donc, tu peux dire la même chose du côté d'Arsenal. Donc, effectivement, ça pourra jouer comme en 2012, la fameuse année du but d'Aguero. À la différence de but, au nombre de buts marqués, tout ça. Parce que
la différence de but, il y a 3 buts d'écart entre City et Arsenal.
C'est ça, ouais. Plus
mais,
3,
mais t'as 3 le match en retard, donc, où tu peux déjà, si tu gagnes, refaire le retard. Ah, ça va être, tout à fait, ça ouais, va être bien.
Tout à fait, tout à fait. Et dans les buts marqués, ils en sont au même nombre, 67 chacun.
Ah ouais. Bon, passionnante course au titre, donc. City qui mène 1-0. C'est pas fini encore contre Everton, hein. On suivra ça.
Non, on a la pause,
dans l'after, tout à l'heure. Donc, c'est la mi-temps. 0-0 aussi entre Séville et la Real Sociedad. Edgar, là, il se passe moins de choses.
Écoute, Séville est pas mal, hein. Sincèrement, Séville est pas mal et ça se voit qu'il y avait une ambiance incroyable à l'avant-match avec un petit peu comme il y avait eu lors de l'Atlético Arsenal, les rouleaux de PQ qui sont balancés sur la pelouse.
Ah,
c'est
ça
pas
ça
la première
ça.
Fois évidemment
ouais.
À Séville. Ouais, c'est magnifique, ambiance un peu à l'Argentine. Et tu sens que les joueurs ils ont compris tout l'enjeu et ils sont vraiment à fond. Et d'ailleurs, c'était marrant, il y avait Goodell qui avait dit on peut pas descendre. On peut pas descendre, c'est pas possible. Avec cette équipe, on peut pas descendre. Et il l'a dit dans le mégaphone hier aux supporters. Et là, tu sens qu'ils prennent le match. Par le bon bout, mais bon. Ils n'ont pas réussi à marquer pour l'instant.
On donnera le résultat.
Il se passe un truc de fou, Jean-Louis, en Italie aussi, hein, parce qu'il marque des buts ce soir, la Roma.
Ah oui, la Roma mène 3-0. Ça marque des buts. Ça vient de reprendre contre la Fiorentina.
En une mi-temps, hein, ça marque des buts. Je sais pas ce qui se passe.
En une demi-heure même, c'était fou. Allez, merci,
la seule
messieurs.
Chose à retenir,
oui.
C'est un bon match de Manu Koné qui est rentré de sa blessure. Voilà.
Ah, c'est pas mal aussi pour les Bleus, ça.